VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 28 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Dans le nord du Mali, le forum de Kidal se déroule sans la participation du gouvernement et des groupes armés pro-Bamako.
Ils sont venus nombreux à cette rencontre-là. Les populations depuis la frontière mauritanienne, en passant par Tombouctou, Gao, les zones de Kidal, le Minaka.
Au Bénin, le président sortant Thomas Boni Yayi n'aurait perçu aucun salaire pendant ses 10 années de pouvoir. Comment les Béninois ont-ils réagi à cette nouvelle ?
S'il n'a pas perçu de salaire et qu'il a laissé ce salaire pour une bonne cause, félicitations. Si on lui doit de l'argent, qu'on le rembourse.
Oui, ils peuvent se permettre de le dire, mais qu'on nous permette nous aussi d'en douter un peu.
Au Niger, l'opposition adoucit sa position et accepte de dialoguer avec le pouvoir après la réélection du président Mamadou Issoufou.
Pakistan, le bilan de l'attentat suicide du jour de Pâques visant les chrétiens à Lahore s'établit maintenant à 72 morts.
Et dans notre page magazine pour combattre la criminalité juvénile dans la capitale américaine, des élus locaux pensent à un moyen peu orthodoxe, payer les jeunes à risque pour qu'ils ne commettent pas de crimes.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Mali, le Forum pour la réconciliation a commencé à Kidal. La coordination des mouvements de l'Azawad dit avoir pris acte de la requête du gouvernement pour un report de la rencontre, mais regrette que cette demande ait été notifiée tardivement. Ainsi, le gouvernement et les groupes armés pro-Bamako n'ont pas effectué le déplacement. Sur les objectifs de ce forum, écoutons Dr Oumar Mariko, un des participants.
Les objectifs du forum sont assez clairs, hein. C'est de se cimenter les relations qui ont été cassées entre les différentes communautés, comme étant une des bases sine qua non pour le retour de la paix définitive et de la réconciliation de la cohésion entre les communautés qui ont été déchirées par les guerres fratricides. L'initiative a été prise par les deux mouvements, eu égard à toutes les guerres qui se sont livrées depuis un peu avant la signature des accords, sont venus nombreux à cette rencontre-là. Les populations depuis la frontière mauritanienne, en passant par Tombouctou, Gao, les zones de Kidal, le Minaka, Taoudini était là, juste des populations maliennes réfugiées dans les camps de Burkina Faso, à Dori, et des populations au niveau de l'Algérie. Il y a une délégation nigérienne aussi qui est arrivée, quand le gouvernement malien était absent. Ça, ça a empêché, à mon avis, un tout petit peu la marche. Ça n'affectera pas les objectifs stratégiques que les mouvements se sont fixés pour pouvoir mettre fin aux querelles fratricides.
Dr Oumar Mariko, un des participants au forum de Kidal. Rencontre ce matin à Niamey entre le Premier ministre et une délégation de l'opposition politique qui rejette les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars et la réélection du président Issoufou Mahamadou. Lors de cette rencontre, Brigitte Raffini a remis un message officiel d'invitation du président à la délégation de l'opposition pour participer à un gouvernement d'union nationale. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Il s'est principalement agi pour le Premier ministre Brigitte Raffini de transmettre à la délégation de la COPA 2016 un message du président Issoufou Mahamadou dans lequel il confirme son appel lancé au lendemain de sa réélection à vouloir former un gouvernement d'union nationale. En retour, les délégués de l'opposition ont remis pour le président de la République au Premier ministre un message contenant tous les griefs qu'ils ont formulés en lien avec l'organisation des élections, particulièrement le second tour de la présidentielle dont ils disent ne pas reconnaître les résultats et toutes les institutions qui en seront issues. Nous examinerons ensemble avec nos structures ce message du président Issoufou en espérant qu'il fasse de même pour le nôtre à laisser entendre ce responsable. L'opposition politique nigérienne a annoncé qu'à partir du 1er avril, date de la fin du mandat du président Issoufou Mahamadou, le Niger n'aura plus de président légitime et qu'elle appellera de ce fait à une résistance citoyenne. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Un millier d'Ivoiriens se sont réfugiés au Burkina Faso après des affrontements entre éleveurs et agriculteurs qui ont fait au moins 17 morts à Bouna la semaine dernière, rapporte l'AFP. Selon les autorités locales au Burkina Faso, 1316 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, se sont réfugiées dans la province du Noumbiel ces 5 derniers jours. Ces réfugiés ont été hébergés à Batié et à Kpéré et d'autres continuent d'arriver.
En République du Congo, 5 candidats malheureux à la présidentielle du 20 mars appellent à des opérations pacifiques publique pour protester contre la réélection du président Denis Sassou Nguesso pour un troisième mandat de 7 ans. Dans une déclaration commune, ils appellent la population à exercer pleinement sa souveraineté à travers des actions reconnues par la loi, telles que villes mortes et autres grèves, meetings et marches pacifiques. La première opération ville morte est programmée pour mardi. Dans leur déclaration dite du 25 mars, les opposants qualifient de forfaiture les conditions de la tenue du scrutin et les résultats annoncés par le gouvernement. Vendredi, ils ont par ailleurs annoncé leur intention de déposer des recours devant la Cour constitutionnelle.
En Angola, 17 opposants ont été condamnés ce lundi à Luanda à des peines de 2 à 8 ans de prison. Le rappeur Luati Berao, qui a mené une grève de la faim de 36 jours l'an dernier, a été condamné à 5 ans et demi de prison pour rébellion contre le président, association de malfaiteurs et falsification de documents. Domingos da Cruz, présenté comme le leader du groupe, a écopé de 8 ans et demi de prison pour tentative de coup d'État et association de malfaiteurs.
Robert Mugabe en visite au Japon, le dirigeant zimbabwéen, a été reçu ce lundi par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les précisions de Lionel Gaïma.
Il s'agit du 4e séjour japonais du président Mugabe au pouvoir depuis 1987 et dont le pays fait l'objet des sanctions internationales. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré vouloir travailler à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec M. Mugabe, qui a assuré la présidence tournante de l'Union africaine l'an dernier, a rapporté l'agent japonais Gigi. À l'issue de discussions, le Japon a annoncé une aide financière de 600 millions de yens, 5,3 millions de dollars pour l'achat d'équipements de construction de routes. Cette visite intervient alors que le Japon tente de faire concurrence à l'influence croissante de la Chine sur le continent et avant la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, grand rendez-vous de l'aide japonaise à l'Afrique, qui se tiendra le 27 et 28 août au Kenya. Le président chinois Xi Jinping avait accueilli Robert Mugabe en 2014, le qualifiant de vieil ami du peuple chinois, un des plus hauts compliments accordés à des dirigeants étrangers en visite en Chine.
Près de 1500 migrants ont été secourus en Méditerranée au large de la Libye au cours des 2 derniers jours, selon les gardes-côtes italiens. 730 personnes secourues dimanche et 752 autres secourues aujourd'hui, dont plusieurs femmes et enfants, se trouvaient sur 12 canots pneumatiques.
Faustin Archange Touadéra sera investi président de la République centrafricaine ce mercredi. Mathématicien de formation et enseignant à l'université de Bangui, M. Touadéra a été élu le 14 février au second tour de la présidentielle avec plus de 62% des suffrages face à Anissé Georges de Loguélé. Il a bénéficié d'une frange importante de l'électorat de François Bozizé, dont le parti avait pourtant appelé à voter pour M. de Loguélé. Premier ministre de 2008 à 2013, Faustin Archange Touadéra est considéré comme celui qui avait permis le règlement des salaires des fonctionnaires après plusieurs décennies de retard dans les versements et des primes impayées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pakistan pleure la mort d'au moins 70 personnes tuées dans un attentat suicide des talibans qui ciblaient délibérément des chrétiens hier à Lahore, dans l'est du pays. Il y a une trentaine d'enfants parmi les morts. Idrissa Seydoudia.
L'explosion qui a eu lieu dans un parc très fréquenté de Lahore a fait aussi plus de 300 blessés. La plupart des victimes étaient membres de la minorité chrétienne qui célébrait Pâques dans le parc. Selon un porte-parole militaire, les agences de sécurité ont procédé à une série d'opérations fondées sur les premiers indices et ont arrêté un certain nombre de terroristes et intermédiaires présumés. L'attentat a été revendiqué par une faction dissidente des talibans pakistanais, le Jamaat ul Ahrar, qui précise avoir ciblé spécifiquement les chrétiens. La communauté chrétienne représente un peu moins de 2% de la population de ce pays de 200 millions d'habitants, majoritairement des musulmans sunnites.
Enquête sur les attentats de Bruxelles. La justice belge a libéré un suspect pour manque de preuves. Selon le procureur fédéral, les autorités n'avaient aucune justification pour garder le nommé Faisal C en prison. Ce dernier était accusé d'avoir pris part à des activités terroristes, y compris meurtre et tentative de meurtre. Des médias ont indiqué que son nom complet est Faisal Chefou et qu'il serait la troisième personne vue sur les caméras de sécurité à l'aéroport de Bruxelles, à côté de 2 hommes qui se sont fait exploser mardi. Ces explosions et une autre dans le métro de la capitale belge ont fait au moins 35 morts et environ 300 blessés.
Le directeur de la CIA, John Brennan, était en visite à Moscou début mars, a révélé aujourd'hui un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. L'information a par la suite été confirmée par la CIA. Le porte-parole a précisé que cette visite n'était pas liée à la décision du président Vladimir Poutine d'ordonner le retrait de ses forces de la Syrie le 14 mars dernier. Selon Washington, John Brennan s'est rendu en Russie pour encourager le respect de l'accord sur la cessation des hostilités en Syrie et réitérer le soutien du gouvernement américain à une vraie transition politique en Syrie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Mélisse Hegel.
La plus grande découverte de gisements de gaz en Tanzanie. C'est ce qu'a affirmé trouver le groupe Total, basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. D'une valeur d'environ 8 milliards de dollars, ce gisement de gaz a été découvert le long du bassin de Ruvu, situé en région côtière à l'est de la Tanzanie. Le ministre tanzanien en charge de l'énergie a déclaré que cette découverte avait été faite depuis juillet dernier, mais qu'elle n'avait pas encore été officiellement annoncée en raison de la nouvelle législation sur le pétrole. Ce nouveau texte stipule en effet qu'une découverte ne peut être annoncée officiellement que si elle a d'abord été soumise à l'étude. Plusieurs usines de traitement seront bientôt construites et le groupe Total continuera son exploration pétrolière et gazière en Tanzanie au cours des deux prochaines années. Le groupe affirme que cette découverte pourrait stimuler l'économie de la Tanzanie. Hausse des prix spectaculaires en Afrique du Sud. L'inflation s'est encore accélérée entre janvier et février pour atteindre 7% sur un an. C'est le plus haut niveau jamais atteint de hausse des prix depuis près de 7 ans. Les causes sont la chute de la devise nationale, le rand, mais aussi la grave sécheresse qui frappe l'Afrique du Sud et qui paralyse l'économie.
Merci Mélisse pour la page économie.
C'est lundi, c'est plein feu sur les stades, sur VO Afrique. John Lennon est en studio pour les sports. Salut John.
Bonjour Gabi.
Pour commencer, les Lions indomptables de moins de 17 ans qualifiés pour la Coupe du Monde Jordanie 2016.
Oui, c'est en éliminant leurs homologues d'Égypte que les Camerounaises ont obtenu leur ticket pour la Jordanie. C'était à la faveur du match retour du dernier tour des éliminatoires Zone Afrique qui se jouait en Égypte et où les Lions du Cameroun l'ont emporté sur un score humiliant de 4-0. Parlant du football camerounais et de ses récentes performances, on a pu obtenir la réaction de Jean Lambert Nan, journaliste, directeur au ministère de la Communication et ancien directeur général de la Fédération camerounaise de football.
Ce qui est paradoxal, c'est que c'est la sélection qui reçoit le moins de subventions de l'État, le moins d'aide de la Fédération camerounaise de football. Je veux parler de l'équipe féminine, cadette. C'est elle qui fait la plus belle des performances le week-end dernier.
Retrouvez la totalité de notre entretien avec Jean Lambert Nan tout à l'heure dans Sport à 19h, temps universel.
Éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le Tchad jette l'éponge, écope d'une amende et d'une suspension, John.
Tout à fait, Gabi. Les Sao du Tchad ne joueront pas leur rencontre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2017, ce lundi contre la Tanzanie. La fédération tchadienne justifie ce forfait par une indisponibilité financière. Du coup, les points obtenus par les trois autres équipes du groupe contre l'équipe tchadienne ont été retirés.
On reste dans la CAN 2017. L'Algérie et le Sénégal pourraient être les premiers qualifiés, n'est-ce pas?
Pour les Algériens, une victoire à Addis Abeba face aux Éthiopiens qu'ils viennent de corriger 7-1 suffira si, dans le même temps, les Seychelles ne s'imposent pas au Lesotho. Le Sénégal, lui, fort de ses trois succès, peut, en cas de victoire au Niger, obtenir son ticket si la Namibie et le Burundi ne se départagent pas. À ne pas manquer dans le groupe G, à trois équipes après le forfait du Tchad, le choc entre l'Égypte et le Nigeria.
Euro 2016, Portugal-Belgique, un match qui s'annonce plein d'émotions, John Lennon.
Effectivement, une semaine après les attentats qui ont frappé la capitale belge, les Diables Rouges joueront très certainement le cœur lourd demain mardi face au Portugal, un match amical finalement déplacé de Bruxelles à Leiria, où le public et les joueurs se recueilleront en hommage aux victimes.
Voilà pour les sports. Merci John Lendon qui sera en notre compagnie à 19h temps universel dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce lundi, Nathalie Barge et Chérubin Gabi Dorsil, place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Mali.
Deux suspects ont été arrêtés dans le nord du pays en rapport avec l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui avait fait 19 morts. Ibrahim Ould Mohamed, un Malien, a été arrêté à Goundam, près de Tombouctou. Il est réputé proche de Kunta Dalla, cerveau présumé de l'attaque, toujours en cavale. Midi Atsodak Diko, un autre Malien, a été arrêté à Gossi, au sud de Gao. L'attaque de Grand Bassam a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pour des précisions, Idriss Fall a joint Chana Takiou, directeur du journal, le 22 septembre à Bamako.
Dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Grand Bassam, il y a eu deux Maliens qui sont arrêtés. Le premier a été arrêté à Goundam, dans la région de Tombouctou, à 80 km de Tombouctou, et l'autre à Gossi, à 50 km de la ville de Gao. Le premier est un arabe bontain. Le second est un Tamashek bontain également. Les deux sont des Maliens, mais jusqu'à leur arrestation, ils ne sont pas des gens très connus, ni dans les mouvements armés, ni au sein des populations.
Comment est-ce qu'on est arrivé à faire le lien avec les attentats de Grand Bassam?
C'est la force Barkhane qui a pu détecter des communications de ces deux personnes arrêtées, lesquelles étaient en lien s'ils ne font pas partie des exécutions des attentats de Grand Bassam. Ce qui est sûr, il y a eu des communications qui les compromettent. Ils sont considérés comme suspects, arrêtés. Les enquêtes vont se poursuivre. Celles-ci vont déterminer le rôle en tant qu'acteurs principaux ou complices dans les attaques terroristes de Grand Bassam. Ce qui est sûr, il y a des éléments qui les compromettent. Et c'est grâce aux forces Barkhane que ces éléments-là ont pu être retrouvés.
Les attentats de Grand Bassam ont été revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Oui. Et ceux qui sont interpellés, ce sont des Maliens. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que Al-Qaïda au Maghreb islamique est bien implanté au Mali. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis la traque des terroristes en Algérie avec le fils, Al-Qaïda a fait du Mali sa base arrière. Al-Qaïda s'est incrusté dans le nord du Mali et s'est propagé dans cette partie du Mali, a recruté vraiment dans cette partie du Mali. Le Mali, aujourd'hui, est un terreau fertile pour Al-Qaïda. Il fait que beaucoup de Maliens ont été enrôlés dans Al-Qaïda. Donc, ce n'est pas étonnant aujourd'hui que de Maliens procèdent à des attaques terroristes parce que beaucoup d'entre eux se reconnaissent en Al-Qaïda aujourd'hui. Malheureusement, il faut le dire.
Chana Takiou, directeur du journal Le Malien, le 22 septembre, était joint à Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le chef de l'État béninois, Thomas Boni Yayi, n'aurait perçu en deux mandats ni salaire, ni indemnité de santé, de logement, de résidence, ni primes et tous autres avantages afférents à la fonction présidentielle. Cette révélation du Conseil des ministres fait jaser et certains se demandent l'intérêt d'une publication soudaine du patrimoine acquis par Yayi Boni en 10 ans de règne. Notre correspondante Ginette Fleur-Adandé a recueilli quelques réactions à Cotonou.
La révélation est inattendue et certains s'en moquent d'ailleurs dans un conseil de Colibé. Yayi Boni, pour résumer, le communiqué du Conseil des ministres aurait travaillé sans bénéficier des avantages financiers et autres qui en découlent. Du bénévolat au service de l'État, titre d'ailleurs certains journaux en ligne qui trouvent que le Bénin aurait bénéficié gratuitement de l'expertise du chef de l'État pendant 10 ans. Le commun des Béninois préfère prendre avec des pincettes cette information jugée inopportune.
S'il n'a pas perçu de salaire et qu'il a laissé ce salaire pour une bonne cause, félicitations. Si on lui doit de l'argent, qu'on le rembourse. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Oui, ils peuvent se permettre de le dire. Mais qu'on nous permette, nous aussi, d'en douter un peu, parce que, au rythme où on voit les gens, moi, je pense quand même qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont un salaire qui vivent bien. Salaire ou pas salaire, il s'en va. Je crois que, on a dépassé ces questions-là, et il faut maintenant penser à l'avenir.
Le président de la République, d'abord, a une caisse noire, qu'il peut utiliser comme il veut. Je crois que le président de la République a d'autres moyens pour utiliser l'argent de l'État comme il veut. Et c'est son droit absolu, en tant que chef de l'État. Par exemple, actuellement, il a voyagé en Afrique du Sud, il a été opéré. C'est l'argent de l'État. Alors, ce n'est pas, cette information n'est pas important pour le peuple.
En autorisant la publication de son patrimoine acquis entre le 6 avril 2006 et le 26 mars 2016, Yahi Boni entend, selon certains, montrer jusqu'où il était prêt à aller dans son souci de servir la nation béninoise. Le chef de l'État n'aurait qu'un seul compte bancaire à Ecobank Bénin crédité à la date d'aujourd'hui de 10 millions de francs CFA. Il ne disposerait que de 2 villas situées dans le nord du Bénin et de 3 véhicules 4x4 acquis sur fonds propres. Certains doutent de la justesse de cette révélation, pendant que d'autres pensent que le camp présidentiel s'est senti obligé de le faire à cause de Patrice Talon, qui a déclaré au lendemain de son élection que le Bénin a une dette intérieure de 300 milliards de francs CFA. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La Biennale de la culture burkinabé, ou Semaine nationale de la culture, bat son plein à Bobo Dioulasso. Le signal du départ a été donné samedi par le Premier ministre Paul Kabatieba. Cette 18e édition de la SNC est placée sous le thème « Culture et cohésion nationale ». Zoumana Wonogo, correspondant de VO Afrique, nous en dit plus.
Depuis le samedi dernier, Bobo Dioulasso, ville située à 365 km de Ouagadougou, vit au rythme de la Semaine nationale de la culture, la 18e édition. Suivant, avec Stanislas Meda, le secrétaire général du ministère de la Culture, les grands traits de cette première édition de l'après Blaise Compaoré.
C'est essentiellement 1350 artistes qui sont venus pour représenter l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso. Et cette année, on notera que tous les artistes qui auront été primés seront promus. Il y aura une post-production de leurs œuvres ou de leurs créations. Les différents prix qui étaient alloués aux lauréats étaient de 750 000 francs. Cette année, nous sommes à 1 million. Il y a le slam. Vous savez que de plus en plus, la jeunesse s'est appropriée le slam comme un peu cette poésie que nous, à un certain moment, quand nous étions plus jeunes, nous récitions et dans les classes. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement des récitations de poètes européens, occidentaux qu'ils font. C'est leur propre composition, leur propre création qu'ils déclament. Je pense que ça, c'est vraiment une innovation importante qu'il fallait encourager.
Cette 18e édition de la Biennale de la culture burkinabé se tient dans un contexte particulier, celui du terrorisme. Mais le ministre de la Culture se veut rassurant, suivant le ministre Tahirou Bari.
Notre pays a traversé de graves crises sociopolitiques qui nous ont fait craindre le pire. Toutefois, grâce à nos référents culturels, nous avons su les transcender et nous retrouver autour de l'essentiel et préserver ainsi notre cohésion nationale. C'est pourquoi le thème de cette 18e édition de la SNC, culture et cohésion nationale, se veut une interpellation à l'endroit de chaque Burkinabé afin que nous chérissions davantage ces valeurs communes pour un Burkina de prospérité.
L'artiste musicien Bill Akakura a lui aussi sa petite idée sur ce thème.
J'entends les gens, les jeunes de Bobo dire que la ville de Bobo a été abandonnée, tous faits à Ouaga. Et je crois que c'est important qu'on ait la cohésion sociale. Et on n'est même pas les seuls. À travers le monde aujourd'hui, on voit qu'on lutte tous contre l'extrémisme un peu partout dans le monde. On voit les attentats à gauche, à droite. Il faut la cohésion, pas qu'on nous divise.
La SNC est la Semaine nationale de la culture burkinabé. Mais elle se veut aussi une manifestation ouverte aux autres pays. Le directeur du cabinet du ministre ivoirien de la Culture que nous avons rencontré explique. Il s'appelle Fousseni Dembélé.
C'est un immense honneur pour la Côte d'Ivoire d'être invité ici à la Semaine nationale de la culture au Burkina. Et nous sommes là au niveau officiel, bien entendu, mais aussi avec une troupe patrimoniale pour que l'amitié entre nos deux pays soit célébrée.
Zoumana Wondogo, Aboubou du Lasso, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, au Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Les meurtres sont de nouveau en hausse dans de nombreuses grandes villes américaines après des années de baisse globale. À Washington DC, le nombre d'homicides l'an dernier a même atteint un chiffre record en 7 ans, ce qui pousse des membres du conseil municipal de la capitale américaine à vouloir financer un programme qui consiste à verser de l'argent aux jeunes dits à risque pour ne pas commettre de crimes. Écoutons les précisions de Jacques Aristide.
Erika Briscoe passait le plus clair de son temps à commettre des actes criminels. Mais aujourd'hui, elle est créatrice de mode en herbe. Elle apprend à fabriquer des vêtements pour jeunes. Elle a une nouvelle attitude face à la vie, dit-elle, grâce à ce programme de formation.
Ça m'a vraiment ouvert les yeux et m'a permis de croire en moi et de me dire que je peux réussir. Je vais réussir, c'est sûr, parce que je suis bonne dans ce domaine.
Erika se dit déterminée à ne pas répéter les erreurs du passé.
J'allais à l'épicerie pour voler de la nourriture pour moi et mes jeunes frères et sœurs. Ensuite, c'est aller plus loin. Vol de voiture, voler les gens, entrer par effraction dans les maisons. J'ai servi une peine de 9 mois et demi dans un établissement pénitentiaire pour mineurs.
Erika a pu s'en sortir grâce en partie à un programme qui lui donne un soutien psychologique et lui permet de bénéficier d'une formation professionnelle. Ses efforts sont récompensés par une allocation de plus de 8 dollars de l'heure.
On doit payer certaines personnes pour les ramener sur le droit chemin. Mais pour ma part, c'est différent. Je reçois beaucoup d'informations pour m'améliorer et progresser dans la vie.
Le conseil municipal de Washington DC envisage ainsi de financer ce projet qui permettra de payer, conseiller et former les individus à risque afin qu'ils s'abstiennent de toute forme d'affaires illicites. Ronald Moten se bat pour ce programme.
Pourquoi ne pouvons-nous pas investir pour aider les jeunes à se guérir de leur mal et de devenir des citoyens productifs? Soit nous payons maintenant, soit nous paierons le prix fort plus tard.
En sortant de prison, Ronald Moten est devenu activiste au sein de sa communauté à Washington. Il se souvient de programmes couronnés de succès il y a 8 ans et qui octroyaient 300 dollars par mois aux jeunes à risque pour qu'ils respectent la loi.
Nous ne disons pas qu'il faut leur donner de la providence, nous disons qu'il faut les soutenir, leur offrir le transport, à manger pendant que nous transformons leur vie pour qu'ils deviennent de bons citoyens qui trouveront un emploi demain et qui le rendront à leur communauté.
Des activistes comme Ronald Moten espèrent que les politiques ne feront pas barrage à un projet qui veut ramener les jeunes sur le droit chemin.
Salut les amis, ici Roger Mountou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Mountou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a assuré la mise en onde. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
On remercie à la console Linas Remkes. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez les sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas, on est ensemble 24 sur 24 sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.